Deutsche Welle. Droits et libertés.
Jean-Claude Dossa a fondé à Cotonou, au Bénin, un hebdomadaire qui s'appelle Droits Humains Info. Il était prédestiné à venir nous en parler et c'est ce qu'il a fait récemment de passage à Bonn. Deuxième thème au menu de ce magazine, des femmes fortes prêtes à retrousser leurs manches en Afghanistan. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous.
Bonjour, je suis Jean-Claude Dossa, journaliste, directeur de publication de l'hebdomadaire Droits Humains Info, paraissant au Bénin.
Vous avez justement apporté un exemplaire de votre hebdomadaire. Comment est-ce qu'il est conçu? Comment est-ce qu'il est fait?
Cet hebdomadaire a cette spécificité de s'intéresser uniquement aux questions du droit de l'homme et un peu plus de justice. Nous avons dans ce journal des rubriques relatives aux droits de l'enfant, aux droits de la femme, des personnes handicapées et la vulgarisation des textes relatifs aux droits fondamentaux de la personne humaine.
Vous avez à la fois des thèmes négatifs, entre guillemets, sur des problèmes, des violations des droits humains, mais aussi sur des actions positives de gens qui essaient de faire en sorte que les choses s'améliorent. Là, je vois quelque chose aussi des femmes leaders qui analysent les causes des entraves dans l'accès au foncier par les femmes du Bénin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette notion de genre, de droit de la femme qui a l'air de prendre une place aussi assez importante dans votre journal?
Nous parlons de ce qui est bien, le vote de la loi sur les droits de des personnes handicapées. Nous en avons relayé, nous avons permis aux bénéficiaires de donner leurs impressions. Également, nous accordons beaucoup de place aux gens, donc à la promotion des droits de la femme, pour être plus précis. Et dans ce cadre, je pense qu'au Bénin, il y a un vrai problème par rapport à l'accès des femmes au foncier. Lorsque, par exemple, il y a le partage de l'héritage, généralement, les femmes dans certaines régions sont exclues au profit des hommes. Donc, ce sont des choses que nous dénonçons. Nous essayons de montrer aux femmes les droits dont elles disposent.
Et qu'est-ce qui vous a, vous, personnellement, Jean-Claude Dossa, jeune homme au Bénin, sensibilisé à ce genre de problématique?
Oui, je pense que dans cette démarche, ce sont, pour quelqu'un qui a connu également beaucoup de violations lors de la guerre civile en Côte d'Ivoire, qui a démarré en 2002, qui a vu, lorsqu'il était encore Boaké, des innocents mourir simplement pour leur appartenance à telle ou telle ethnie, à tel ou tel parti politique. J'étais par le fait d'avoir perdu beaucoup de connaissances dans cette crise en Côte d'Ivoire, j'étais sensibilisé sur la question de la nécessité de veiller à ce que les atteintes aux droits de la personne humaine régressent, d'offrir aux citoyens, aux organisations de la société civile une tribune.
Et est-ce que vous avez la possibilité, en tant que journaliste qui parle de droits humains, de critiquer les pouvoirs publics au Bénin, d'autant plus si vous travaillez parfois avec des ministères? C'est possible au Bénin aujourd'hui?
Oui, mais bien sûr, je pense que au Bénin, nous avons relativement quand même une certaine indépendance au niveau de la presse. Nous ne sommes pas dans une démarche d'apologie où nous ne sommes pas là pour encenser un régime. Lorsque c'est bien fait, nous ne manquons pas de le dire, mais nous ne sommes pas des opposants, nous ne sommes pas non plus des partisans.
Et c'est une rédaction mixte?
Bien sûr, mixte en termes de
sexe homme-femme, oui.
Bien sûr, c'est vrai. Il faut l'avouer que les femmes ne sont pas un grand nombre, c'est vrai, mais il y a des femmes dans la rédaction.
Il y en a combien sur les 8?
Ah oui, sur les 8, elles ne sont que 3. Malheureusement.
Presque la moitié.
Voilà.
Et selon vous, justement, puisqu'on parlait de genre, de discrimination, est-ce qu'il y a des thèmes qui sont réservés aux hommes, d'autres thèmes réservés aux femmes, c'est-à-dire qui n'intéressent que les hommes ou qui n'intéressent que les femmes, ou qui ne peuvent être traités que par des hommes ou que par des femmes?
L'homme et la femme, de toute façon, ont des centres d'intérêt quelquefois qui ne convergent pas. Donc, par rapport à ça.
Mais deux hommes aussi. C'est possible.
Oui, bien
deux
sûr,
hommes
bien
qui
sûr.
N'ont pas les mêmes centres
oui,
d'intérêt. Est-ce que c'est lié au fait d'être un homme ou une femme?
Non, l'impression que moi j'ai, là c'est vraiment personnel, c'est qu'il y a un certain nombre de de thèmes aussi qui peuvent être mieux traités par les femmes. Dans des organes ordinaires, on se dirait s'il y a une rubrique cuisine, a priori, on penserait à une femme pour l'animer, ainsi de suite. Chez nous, c'est vrai. Sinon, la très grande majorité peut être traitée aussi bien par un homme que par une femme.
Est-ce qu'il y a des changements en cours, selon vous, dans ce domaine-là, dans le Cotonou d'aujourd'hui, dans un milieu donc citadin, jeune peut-être? Est-ce que les relations hommes-femmes ont évolué par rapport à ce que ça pouvait être il y a une génération au-dessus, quoi?
Oui, les femmes elles-mêmes, à travers leurs différentes associations, leurs regroupements, ont contribué à faire changer quelque peu la mentalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la représentation des femmes au niveau des instances de décision aussi a été boostée, en dépit du fait, comme je l'ai dit, que le président de la République actuel soit revenu à un taux de participation des femmes à l'exécutif, un taux encore plus bas que ce qui était déjà dénoncé. Même si on continue de noter de nombreuses violations, notamment des violences basées sur le genre, on se rend compte qu'il y a une certaine prise de conscience et c'est heureux, ça présage également de ce que d'ici quelques années, les choses vont aller dans le bon sens. C'est ce que je crois.
Merci beaucoup Jean-Claude Dessa.
Je vous remercie.
Changement de décor, des gros trous, des petits trous. Non, il ne s'agit pas d'une chanson de Gainsbourg, mais bien de la réalité au palais de Darul Aman en Afghanistan. Le bâtiment est de style néoclassique. Il date des années 1920 et abritait dans les années 70-80, au moment de l'invasion soviétique, le ministère de la Défense afghan. Ses murs sont maintenant déchiquetés par les balles, mais l'édifice tient toujours debout, comme défiant les lois de la pesanteur. Cette ruine magnifique est celle d'un palais couleur sable et ce palais des habitantes ont décidé de le sauver. Une banderole s'étend sur la façade de 3 étages avec ces mots « On va y arriver ». Wasma Kouram passe devant tous les matins quand elle va au travail, en taxi collectif ou en bus. Elle est ingénieure en structure et un quart des ingénieurs, des urbanistes et des architectes qui tentent de reconstruire les villes afghanes dévastées par la guerre sont des femmes. Le président du pays a instauré des quotas. Wasma ne rencontre aucun problème avec ses collègues masculins au travail. En revanche, c'est souvent qu'on l'importune dans les transports en commun.
I think ignorance will be better because if you talk to them, that's what they want. So
moi, je passe outre. Si je m'abaissais à répondre à ces types, ils auraient atteint leur objectif. Alors que si tu les ignores, ça les blesse.
Ignore them, it's really painful for them. I think.
La reconstruction de Darul Aman, c'est le premier emploi de Wasma au sortir de ses études.
Then when we build it, it has two.
Ici, nous pouvons montrer que ce que nous avons détruit nous-mêmes, nous pouvons aussi le reconstruire. La nouvelle génération a la force de corriger les erreurs du passé. Et puis, c'est notre héritage culturel. Nous devons le sauver.
Dans une aile du palais en ruine, une cinquantaine d'architectes et d'ingénieurs sont penchés sur leurs ordinateurs portables. Ils font des plans pour la reconstruction du bâtiment. La plupart d'entre eux ont appris à manier les logiciels en autodidacte. Pour la reconstruction, comme dans la vie quotidienne, il faut savoir improviser en Afghanistan. Dehors, quelques douzaines d'ouvriers déblaient les ruines à la pelle. Ils n'ont pas de machine à leur disposition, mais ils ont la foi chevillée au corps.
Quand tu vas chez le médecin avec un malade, le patient se met à espérer qu'il va guérir. Nous, c'est pareil, on garde espoir.
Bien sûr que j'ai peur aussi. Souvent, on ne sait pas si on rentrera vivant à la maison le soir. C'est ça notre vie. Mais nous ne pouvons pas pour autant rester à la maison à broyer du noir.
Quand on lui demande s'il ne serait pas utile de laisser le palais tel quel, avec des impacts de balles visibles pour rappeler aux générations futures les affres de la guerre, Wasma répond
« We should think positive.
Nous devons positiver. Je sais que beaucoup de gens sont déçus et ont l'impression que rien ne changera jamais ici. Mais moi, je garde espoir quand je vois les jeunes. Je crois vraiment à notre force et à nos idées. Et il y a ici beaucoup de gens vraiment qui veulent changer le pays.
I'm hopeful for my country's future.
Âgée de 26 ans, Wasma Kouram est née après le retrait de l'armée rouge, au moment où les mouvements Moudjahidine, armés par l'Occident, se livraient une guerre fratricide. Les combats de rue ont détruit Kaboul, la population était terrorisée. En 1996, les talibans sont arrivés au pouvoir. Leur régime religieux était terrible, la liste des interdits longue comme le bras. Les filles et les femmes, par exemple, n'avaient même pas le droit d'aller à l'école. Alors les parents de Wasma se sont débrouillés pour que ses deux sœurs et elle bénéficient quand même de cours particuliers en cachette à la maison. Et c'est grâce à eux que Wasma est aujourd'hui ingénieure. Elle leur en est très reconnaissante.
L'éducation est la seule voie de sortie. Si tu es éduqué, tu sais que la guerre n'est que destruction. Et si les prochaines générations sont élevées dans cette idée, la guerre se terminera.
Les autorités afghanes sont divisées et ne contrôlent que 60% du pays. Des combats sont toujours en cours dans 31 des 34 provinces de l'Afghanistan. 1,5 million de personnes ont fui les violences des chefs de guerre, des talibans, du groupe État islamique et d'Al-Qaïda. L'État est miné par la corruption. Alors les élites se confinent à Kaboul, derrière des murs de plus en plus hauts, dans des quartiers dits « sécurisés ». C'est la fin de ce magazine. Merci à Esta Felden pour les sons d'Afghanistan et à Jean-Claude Dossa de Cotonou. N'hésitez pas à réagir par mail à français@dw.com. Salut et à la semaine prochaine.
La paix, la paix.